RCF.
Bonjour à tous, au micro Frédéric Mounier, bienvenue dans le studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, en partenariat avec le quotidien La Croix. Alors que notre monde, vous le voyez bien, semble chaque jour un peu plus proche d'un véritable chaos, alors que l'empereur chinois Xi Jinping, le tsar russe Vladimir Poutine, le sultan turc Erdogan semblent se partager les dépouilles de l'ancien monde, eh bien beaucoup s'interrogent sur la place désormais occupée sur l'échiquier international par les États-Unis. La débâcle spectaculaire de Washington en Afghanistan, les incertitudes planant sur l'OTAN, les ébranlements en mer de Chine, l'affrontement annoncé entre Pékin et Washington inquiètent plus d'un observateur. Avec nos invités aujourd'hui, nous allons tenter d'y voir plus clair, de revisiter l'histoire de ces relations diplomatiques entre les États-Unis et notre vieille Europe. Gérard Arrault, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être dans ce studio. Vous avez été notre ambassadeur en Israël, puis à Washington, vous avez également été le représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à New York. À travers votre dernier livre, Henry, je ne sais jamais s'il faut dire Henry Kissinger ou Henry Kissinger.
Henry Kissinger.
Henry Kissinger, voilà. Le diplomate du siècle, c'est publié chez Talendier. Vous brossez un tableau saisissant, non seulement, nous allons le voir, de la personnalité hors norme de Kissinger, mais vous décryptez également les grandes tendances de la diplomatie américaine de la deuxième moitié du XXe siècle. Vous êtes donc l'une des personnalités les mieux placées pour nous aider à comprendre aussi bien les origines que les horizons possibles de la politique étrangère de nos amis d'outre-Atlantique. Avec nous également, nous recevrons dans quelques instants Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix, ancien chef du service international de ce quotidien et président de l'Association de la presse diplomatique. Voilà, aujourd'hui donc, à travers le destin d'Henry Kissinger, nous allons travailler l'anatomie de la diplomatie américaine.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Les racines du présent avec notre ancien ambassadeur à Washington, Gérard Arrault, autour de son livre « Henry Kissinger, le diplomate du siècle », c'est chez Talendier. Alors Gérard Arrault, il faut d'abord découvrir avec vous, ou peut-être redécouvrir, le destin absolument hors norme de Kissinger. Ses premières années en Allemagne, avant le nazisme, Henry Kissinger était vraiment un juif allemand pratiquant, un fils de l'Europe.
Ah oui, Henry Kissinger, la famille de Kissinger, c'est une famille juive dans une petite ville de Bavière. Et c'est ce qu'il faut insister, c'est une famille de juifs orthodoxes. Mmh. Et de la plus parfaite orthodoxie, c'est-à-dire une famille totalement imbibée de la grande tradition des penseurs juifs et qui respecte les interdits du judaïsme. Et c'est donc cette famille qui voit arriver en 1933 l'élection d'Hitler. Et c'est donc ensuite toute la ségrégation, la discrimination imposée sur le nazisme aux juifs d'Allemagne.
Oui, vous écrivez, Kissinger, alors qu'il était jeune, il était tout juste adolescent, a été abandonné par ses amis allemands non juifs, trahi par un pays dont on lui avait appris à aimer la langue et la culture.
Ah oui, parce que la famille de Kissinger, elle ressemble à beaucoup de familles juives, y compris en France. C'est-à-dire ces juifs qui avaient l'impression qu'ils avaient été enfin intégrés dans la culture de leur pays et qui étaient d'autant plus patriotes. Mmh. Comme les juifs français étaient extraordinairement patriotes pour la France, eh bien les juifs allemands, ils croyaient être dans la patrie de Goethe et de Heine et ils étaient fièrement allemands et juifs.
Et jusqu'au bout, le père de Kissinger a cru en cette culture allemande. Il a cru qu'il ne risquait pas grand-chose finalement.
Mais naturellement, comme beaucoup de juifs européens de l'époque. Il dit lui-même, c'est un mauvais moment à passer, l'Allemagne éternelle va redevenir notre Allemagne, et il refuse de quitter l'Allemagne alors que l'horreur s'approche. Mmh. Et c'est la mère, c'est-à-dire la vraie mère juive, oui, qui prend qui écrit à une cousine qui vit aux États-Unis pour obtenir des visas, et qui oblige son mari à partir, et ils abandonnent leur famille, ils abandonnent tout en 1938 à 3 mois de la nuit de cristal.
Donc in extremis, vraiment juste à
temps. Vraiment in extremis. Oui. Et d'ailleurs, Henry Kissinger perdra 11 parents proches dans l'Holocauste.
Donc c'est un homme qui a été profondément marqué par cette période, y compris dans sa chair. Alors il arrive à New York et là, il est vraiment un exilé. Il vit dans ce que vous décrivez comme un ghetto de New York. Il vit l'insécurité de l'immigré. Il reste un étranger lucide et défiant, écrivez-vous.
Oui, donc il arrive, il va dans... vous savez, les États-Unis, souvent, on accuse le communautarisme américain, mais c'est finalement une bonne manière pour les immigrés. Vous savez, l'immigré arrive, il va dans un quartier où il y a les gens qui parlent sa langue, qui pratiquent sa culture, sa religion. C'est une manière première manière de vivre. C'est ce qu'il fait. Il va dans un quartier de New York qu'on appelle à l'époque le 4e Reich, parce qu'il n'y a quasiment que des Juifs allemands. Il y en a près de 25 000. Et là, il va aller dans une synagogue juive allemande. Et il va manger de la cuisine juive allemande et la plupart du temps parler allemand.
Alors, ces immigrés-là n'étaient pas forcément les bienvenus aux États-Unis, si j'ai bien compris, parce que le pays se remettait à peine de la crise de 1929.
Bon, d'abord, on oublie qu'il y a une xénophobie et un racisme américain. Hein.
Il faut le rappeler.
Il faut le rappeler que dans tous les pays du monde, être un immigré, ce n'est pas facile, hein, souvent, parce qu'on a les boulots les plus dégueulasses et puis que les autres vous le font sentir. Et donc, c'est le cas. Et donc, dans les rues de New York, vous avez les Irlandais qui tapent sur les Italiens tapent sur les Juifs, etc. C'est cette violence que l'on voit pas dans West Side Story.
Exactement.
Voilà, exactement.
C'est ça. Avant l'heure. Mais alors, curieusement, cet homme, donc Henry Kissinger, qui a vécu de façon proche l'innommable et la haine des nazis, eh bien, vous écrivez, Gérard Haro, que jamais il ne commentera l'infini malheur qui a fait de lui un Américain par accident. Comment expliquer cette sobriété, en quelque sorte ?
Alors, c'est vrai qu'il a toujours nié, parce qu'il passe quand même, rappelons-nous, il passe 5 ans dans l'Allemagne nazie, sous la peur et la discrimination, de l'âge de 10 ans à 15 ans. Donc, c'est un adolescent, il a bien compris ce qui arrivait. Eh bien, toute sa vie, il niera que cet épisode ait eu la moindre influence sur sa carrière, sur sa personnalité. Et comme je l'écris, vous savez, j'ai connu aussi beaucoup de survivants des camps en Israël ou en France.
Oui, je rappelle que vous avez été notre ambassadeur à Tel Aviv.
Exactement. Et j'ai connu donc des survivants en France, mais aussi en Israël. Vous savez, ils ne voulaient pas en parler. Hein. Il y avait quand même quelque chose d'innommable était arrivé. Leur monde s'était effondré. Et beaucoup préféraient regarder vers l'avenir et essayer de ne pas regarder vers le passé. Et je pense que Kissinger, c'est un petit peu aussi cette réalité. Mais il a évidemment en lui cette peur et cette insécurité.
Cette défiance dont vous écrivez, Gérard Haro, que jamais il ne devait plus jamais faire confiance à quiconque.
Ah non, parce qu'il y a pas mal d'épisodes sur lesquels nous reviendrons certainement, où il montre sa paranoïa, sa méfiance, et aussi une certaine, il faut bien dire, une certaine servilité envers les puissants. Vraiment, on a un peu l'impression qu'il a toujours peur que le monde s'effondre sur lui et qu'il fait le maximum pour l'éviter. À un moment, il dira au grand écrivain Norman Mailer, au moment des émeutes autour de la guerre du Vietnam, il dit « J'ai peur que, parce que je suis juif, le débat sur la guerre du Vietnam entraîne une montée de l'antisémitisme aux États-Unis. » Alors Norman Mailer, qui lui-même est juif, ne comprend pas. Et c'est ça aussi, c'est cette expérience de la jeunesse de Kissinger qui est là.
Alors, il avance en âge et donc 5 ans après son arrivée, il fait son service militaire et là, il retourne en Allemagne avec l'armée américaine, où il joue un rôle quand même relativement important, localement, si je vous ai bien lu, Gérard Haro.
Oui, alors il a 22 ans, il est sergent de l'armée américaine, et puis comme il parle parfaitement l'allemand, on le met en charge d'une petite ville et d'une petite région pour dénazifier la région. Et il se fait appeler Herr Henry, pour ne pas donner son nom juif, pour ne pas donner l'impression que c'est une revanche des juifs. Et il sera en effet d'une parfaite impartialité dans la dénazification, montrant des gens beaucoup de bon sens. Mais il y a dans cet épisode, et je le rappelle dans mon livre, il y a un moment assez frappant. Il retrouve un survivant, un juif, un de ses amis qui a passé 5 ans dans un camp. Et il va tout faire pour qu'il puisse émigrer en Allemagne. Et il écrit une lettre à ses parents, et une lettre absolument bouleversante, où il dit, vous savez, et qui est bouleversante de réalisme et de dureté. Il dit, vous savez, ce type, s'il a survécu pendant 5 ans dans les camps, c'est bien qu'en réalité, lui-même a fait des choses innommables. Il s'est endurci, il a vu le pire, et peut-être il est devenu aussi le pire. Ce qui est quand même quelque chose de glaçant.
Réalisme et dureté.
Voilà, réalisme
c'est ça,
et dureté.
C'est peut-être les deux caractéristiques de cet homme dans sa vie publique.
Il aurait dit de son père, qui est justement, comme je l'ai dit, était le juif confiant et qui ne se relèvera jamais de son exil. Il dit, mon père n'aurait pas survécu sur les docks de Marseille.
Parce que la vie aurait
parce que
été...
la vie parce que ouais. sur les docks de Marseille d'après ce qu'il pensait moi je suis né à Marseille donc il fallait vivre à coups de poing, il fallait être dur et donc lui il choisit la dureté.
Alors il fait une rencontre décisive durant son séjour en Allemagne, il rencontre celui que vous décrivez comme un Junker prussien. Monsieur Krämer, qui était Monsieur Krämer?
Alors, Monsieur Krämer, c'est quelqu'un d'assez étonnant parce que donc il a deux doctorats de sciences politiques, l'une en Allemagne et l'autre en Italie. Il est extrêmement conservateur. Il joue au Junker avec monocle et bottes de cheval, de cavalier. Mais en réalité, il est conservateur mais anti-nazi. Il va, tout à fait par hasard, rencontrer le jeune Kissinger, qui à l'époque croit qu'il va devenir comptable, a comme ambition d'être comptable, qui ne sait pas encore qu'il est très intelligent, et il va déceler l'intelligence de Kissinger, et il va devenir son mentor. Et toute la carrière de Kissinger, c'est, jusqu'à ce qu'il atteigne les sommets, c'est de trouver des mentors, de trouver des gens qui, au-delà de ses défauts, sont fascinés par sa belle intelligence.
Vous écrivez deux divas se sont trouvés.
Exactement, Krämer, qui mourra à 95 ans, au début de ce siècle d'ailleurs, était une diva assez étonnante, mais notre Kissinger aussi.
Alors ensuite, Henry Kissinger retourne aux États-Unis. Il rentre à Harvard, parce qu'il est ancien combattant, il y a des facilités donc offertes par cette prestigieuse université. À Harvard, dit-il, il ne sait rien, mais il comprend tout, et je ne résiste pas au plaisir, Gérard Araud, de citer le portrait que vous brossez de Henry Kissinger à Harvard, plus vieux que son âge, extrêmement intelligent, travailleur forcené mais solitaire, étranger à toutes les activités sportives, culturelles ou sociales, et qu'offre avec générosité une université américaine. Ses condisciples le trouvent pompeux, ennuyeux et arrogant. Il ne fait partie d'aucun club, ne pratique aucun sport, n'écrit dans aucun journal et ne participe pas aux soirées plus ou moins arrosées de ses condisciples, mais il lit tout et tout le temps. C'était une sorte de surdoué asocial, c'est ça, Henry Kissinger?
Exactement. Vous savez, on l'a tous eu dans nos classes. Vous savez, le bon élève avec les lunettes qui est mauvais en gymnastique.
Oui.
Enfin, c'était mon cas d'ailleurs, et qui donc est un peu à l'écart de tout le monde. Je crois qu'il y a aussi une autre anecdote. Pendant le service militaire, il y a un des autres jeunes soldats qui dit, pendant qu'on parlait de sexe, il lisait Le Rouge et le Noir.
Tout est dit. Et puis il rencontre donc un autre de ses mentors qui marquera toute sa vie, celui que vous qualifiez de gentleman sudiste, Eliot. Qui était-il?
C'était un professeur de Harvard qui jouait en fait un peu, lui aussi était un peu une diva au gentilhomme sudiste, qui faisait, ce que je ne dis pas de mon livre, faisait des combats de coq dans sa cave à Harvard, mais qui avait un talent, même s'il n'était pas très bon du point de vue intellectuel, il repérait les belles intelligences, et là donc Kissinger, et il sera son second mentor, il le poussera, il en fera son assistant.
Et donc c'est le début de la vie publique de Henry Kissinger. Tout de suite, il est passionné par l'histoire des relations internationales et il est fasciné par une personnalité de notre vieille Europe, Metternich. Pourquoi et comment, Gérard Araud?
Alors, il fait une thèse de doctorat qui n'a pas été traduite en français parce qu'il en a fait un livre, et c'est vraiment dommage parce que c'est un livre absolument éblouissant, où il décrit le congrès de Vienne et
1815,
et alors que les élèves autour de lui, les autres étudiants, disent, mais est-ce que tu sais qu'on a la bombe nucléaire et qu'on est au 20e
voilà,
siècle?
Voilà, c'est le début de la guerre froide, il faut
rappeler.
C'est le
début de la guerre froide. Eh bien, lui dit, mais non, parce que au fond, Metternich, le ministre autrichien, avec Castlereagh, le ministre britannique, Talleyrand, le français, ils doivent reconstruire un monde qui a été détruit par 23 années de guerre, la Révolution française. Un monde explosé, les guerres de l'Empire. Eh bien, nous, après l'horreur nazie, après la Seconde Guerre mondiale, nous avons aussi à reconstruire le monde. Et on voit aussitôt apparaître sa pensée, parce que la reconstruction du monde du Congrès de Vienne, elle s'est faite sur la base des rapports de force, sur l'équilibre des puissances. Et donc, c'est aussi d'une certaine manière, ce qu'il propose pour le monde d'après 1945.
Les racines du présent. RCF.
Au micro Frédéric Mounier, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Gérard Aron, notre ancien ambassadeur à Tel Aviv, à Washington et également auprès des Nations Unies. Gérard Aron qui vient de publier chez Talendier une biographie passionnante de Henry Kissinger, intitulée « Henry Kissinger, le diplomate du siècle ». Nous sommes également en compagnie de Jean-Christophe Ploquin, que je salue, rédacteur en chef à La Croix et président de l'Association de la presse diplomatique. Et donc, à travers la personnalité de Henry Kissinger, nous allons remonter le cours de la diplomatie américaine avec Gérard Aron et essayer de comprendre un peu ce qui se trame dans ces relations souvent complexes entre la vieille Europe et Washington. Alors, nous en sommes au stade où Henry Kissinger vient de commencer sa vie publique. C'est un brillant étudiant à Harvard et il rencontre, il est proche de Nelson Rockefeller, il s'insère dans le microcosme de DC, de Washington DC, il manifeste un certain goût du pouvoir qu'il n'a jamais caché et il devient conseiller national pour la sécurité de Richard Nixon. Comment ces deux personnalités se sont-elles alliées, Gérard Aron ?
Alors c'est en effet deux personnalités très particulières et leur relation sera elle aussi très particulière. Rappelons Nixon. Nixon vient d'un milieu assez pauvre, hein, de la côte ouest, d'un milieu très religieux, d'un milieu protestant. C'est une belle intelligence, mais c'est aussi une personnalité torturée, paranoïaque, plein de complexes vis-à-vis des élites de la côte est. Et en face, vous avez donc Henry Kissinger, justement l'inverse, venant de la côte est et en plus étant juif. Mais il a tellement été Henry Kissinger dans les années 60, à la limite, c'est, on le voit dans toutes les télévisions parce qu'il a un talent quand il est à la télévision, malgré, bien qu'il ait gardé son accent allemand.
Ah oui, il a
allemand,
un accent, on va l'entendre dans quelques instants.
Un
accent coupé au couteau.
À couper au couteau, oui. Encore aujourd'hui, 83 oui. ans après avoir immigré. Eh bien, tout le monde sait en 69 que Kissinger doit avoir un rôle dans la nouvelle administration. Et ce qui est pire, quelle que soit l'administration, que ce soit les démocrates ou que ce soit les républicains. Et donc, il est quasiment incontournable, comme on dit. Et c'est une rencontre fondée sur l'intérêt. Tout le monde dit à Nixon, c'est le meilleur.
Alors, je voudrais vous faire écouter maintenant un extrait sonore, une archive tout à fait étonnante, Gérard Aron, que j'ai extrait de ce qu'on appelle les Nixon Tapes, c'est-à-dire que les enregistrements Nixon. Il semblerait qu'à cette époque-là, dans les années 70, à la Maison Blanche, tout le monde se méfiait de tout le monde, et donc tout le monde enregistrait tout le monde. Et donc, on va écouter un bref extrait d'une conversation téléphonique le 17 avril 1973 entre le président des États-Unis, Richard Nixon, et Henry Kissinger, qui était donc son secrétaire d'État à l'époque, si je ne me trompe pas. Et donc, il est minuit, c'est un an et trois mois avant la démission de Richard Nixon, et manifestement, on va l'entendre, le président des États-Unis n'a pas le moral, et son secrétaire d'État, Henry Kissinger, essaye de lui remonter le moral. On écoute un extrait de cet épisode.
Well, rather hard day, wasn't it? Well, it was hard for you. Yeah. When I didn't know you had made the statement you did until the evening. And I think of the discipline with which you conducted the meeting in the morning.
And then going through the evening.
And then going through the evening.
You know. The problem I have is that I can't look at it in the detached way I really should. Well, these people, goddammit, they're guilty. Throw them out and go on. But just the personal things are, goddamn. I think of these good men.
Voilà, nous sommes le 17 avril 1973, il est minuit, le président des États-Unis, Richard Nixon, commence à comprendre ce qui se passe autour du scandale Watergate, et il envisage peut-être d'ores et déjà de démissionner pour laisser le pouvoir à son vice-président Spiro Agnew, et on entend, Gérard Aron, on entend Henry Kissinger qui essaie de lui remonter le moral, c'est bien ça ?
Oui, exactement. Alors, pour rappeler quand même peut-être aux auditeurs, oui. Parce que le scandale du Watergate, c'est de manière totalement stupide, les républicains qui envoient des pieds nickelés, c'est-à-dire pour cambrioler ou pour plus exactement installer des écoutes au quartier général du Parti démocrate. Alors évidemment, les pieds nickelés se font avoir et ensuite il y a une remontée, comme dans un très bon film américain, d'ailleurs on en a fait un film, hein, une remontée peu à peu vers les responsabilités à la Maison Blanche. Je rappellerai que 48 collaborateurs de Nixon seront inculpés. Mm-hmm. Nixon lui-même se défend comme il peut. Il sombre dans l'alcoolisme et donc minuit, je ne serais pas surpris qu'il soit un peu imbibé. D'ailleurs, sa voix
est un peu lourde. Oui.
Sa voix est lourde et il hésite dans ses mots. Et il sera finalement dans une sorte de chemin de croix. Il sera obligé de démissionner en août 1974. Et Kissinger, qui a réussi à être totalement à l'écart de cette affaire, sera en charge régulièrement de remonter le moral du président. Mais cela étant, avant même l'affaire du Watergate, Nixon était si peu sûr de lui qu'en général, lorsqu'il avait un entretien, par exemple lorsqu'il vit en 69, il voit le général de Gaulle, eh bien le soir, il appelle dans sa chambre d'hôtel Kissinger, et Kissinger, pendant une heure et demie, est supposé le convaincre qu'il a été excellent. Mmh. Et ils reviennent sur chacune des phrases de Nixon Kissinger, qui, il faut bien dire, est un courtisan, lui dit de son accent allemand « It has been very good, you were very, very right ».
Voilà ce qui se passe au sommet du pouvoir avec ce que vous décrivez, Gérard Araud.
Je pourrais dire la même chose sur la France. Hein.
Oui, alors nous y viendrons peut-être tout à l'heure. Vous décrivez Richard Nixon et Henry Kissinger comme deux sombres personnalités poursuivies par leurs démons, presque rachetées par leur commune intelligence. Alors, on va se décaler un peu de ce tandem un peu lourd et on va examiner comment est-ce que Henry Kissinger a construit la diplomatie américaine pendant ces années-là. D'où vient la diplomatie américaine, Gérard Araud? Vous nous expliquez que depuis le président Wilson, les États-Unis sont la seule nation idéaliste au monde. L'histoire est une lutte entre le bien et le mal. On va voir que c'est pas forcément le cas pour Kissinger. Alors voilà, la base de la vision du monde américaine. Non,
il faut d'abord comprendre que les États-Unis, nos amis américains, se voient comme la Jérusalem terrestre. Ils considèrent que leur pays est différent des autres. Mm-hmm. Et c'est quelque chose de très profond, quels que soient nos interlocuteurs. Cette Jérusalem terrestre, en politique étrangère, elle a deux choix. Soit elle se replie sur elle-même pour se défendre du péché du monde. Et ça a été la politique étrangère américaine, à quelques exceptions près, depuis George Washington jusqu'en 1945.
C'est ce qu'on appelle l'isolationnisme.
L'isolationnisme, mmh. Le néo-isolationnisme, avec de temps en temps des sorties. Mais... Et puis, ou alors, vous êtes la Jérusalem terrestre et vous voulez répandre les lumières de cette Jérusalem sur le monde des pêcheurs. Et c'est ce qu'on appelle le wilsonisme, mmh. du nom du président Wilson. C'est lui qui dit cette phrase extraordinaire, les États-Unis sont le seul pays idéaliste au monde. Et ce sera en grande partie la politique étrangère américaine à partir de 1945, parce que les Américains en plus ont l'impression qu'en face d'eux ils ont le mal, et le mal c'est évidemment le communisme, c'est la guerre froide.
Et puis donc c'est le Vietnam.
Et c'est le Vietnam, et c'est intéressant parce que la guerre du Vietnam, et ça peut être pour nous d'ailleurs un enseignement pour ce qui se passe en Afghanistan ou ce qui se passe même au Sahel, c'est qu'ils ne voient la guerre du Vietnam que dans les termes du bien contre le mal, c'est-à-dire on combat le communisme, au point que Kissinger lui-même se rend compte qu'en réalité, les Américains s'intéressent très peu au Vietnam lui-même. C'est-à-dire l'expérience des Français dans la guerre d'Indochine, l'histoire du Vietnam, la topographie du... Non, pour eux, ils combattent le communisme, et le communisme a une capitale, c'est Moscou, et l'on verra Kissinger lui-même chercher la solution à Moscou.
Une question de Jean-Christophe Ploquin à La Croix.
Moi, effectivement, Henry Kissinger semble un peu vraiment se décaler par rapport à cette vision que vous venez de décrire. Finalement, alors dans la mémoire qu'on peut en avoir ici en France, et effectivement, on est donc beaucoup plus loin des États-Unis, de Washington. Mais voilà, Henry Kissinger, c'est un petit peu la diplomatie des petits pas, c'est le pragmatisme,
voire le
machiavélisme, oui. C'est la capacité à effectivement parler, y compris avec des régimes qui sont très hostiles. Et donc, voilà, est-ce que finalement, Henry Kissinger, ça a été juste une parenthèse dans ce que vous avez décrit, justement, de cette diplomatie américaine, ou bien il a quand même marqué aussi de son empreinte la diplomatie américaine jusqu'à nos jours?
Gérard Araud.
Je pense que Henry Kissinger, en réalité, a été une parenthèse dans la politique étrangère américaine. On le voit bien, d'ailleurs, lorsque à la fin de son mandat comme secrétaire d'État sous Gerald Ford, puisque Je vous le rappelle, Nixon démissionne en août. Ouais. Ensuite, c'est son vice-président Gerald Ford qui devient président jusqu'en 77. Il est battu par Carter. Et donc, Kissinger reste comme secrétaire d'État. On le voit que après la défaite du Vietnam, Saigon tombe en 75, il y a des règlements de compte. Et les règlements de compte, c'est en gros à la fois la droite et la gauche qui, au nom des idéaux, c'est-à-dire l'anticommunisme notamment, la défense de la liberté, cherchent un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est justement Kissinger, parce que c'est un, au fond, Kissinger, c'est un étranger. Alors à droite, il y a une partie
d'antisémitisme. C'est un étranger ou c'est un juif, Gérard Rond?
Alors à la droite, j'allais le dire, oui. Vers la droite, c'est plutôt parce que c'est un juif, il y a de l'antisémitisme. Mmh. Et ailleurs, c'est un étranger, il est étranger à la tradition américaine. Justement, il n'est pas du tout wilsonien. Il a trahi, aux yeux de ces gens, il a trahi la mission qui doit être celle des États-Unis.
Peut-on dire que Kissinger a été un mal-aimé, Gérard Aron?
Ah, Kissinger est un mal-aimé. Ouais. Après le départ du département d'État en 77, il y aura des procès faits par des ONG ou par des militants qui l'accusent de génocide, de torture, etc. Et jamais, par exemple, Kissinger n'a été invité à un discours. Vous savez, ces discours qu'on donne au moment de la remise des diplômes dans les universités, où tous les grands Américains sont invités. Eh bien, jamais il n'a été invité parce que les étudiants ne l'auraient pas accepté. Et même 20 ans après son départ du pouvoir, très souvent, lorsqu'il donnait des conférences, il fallait mettre la sécurité parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui se levait pour l'insulter.
Alors, vous écrivez, Gérard Aron, que Henry Kissinger, pendant sa carrière, n'a pas été un missionnaire assuré de son bon droit, comme un bon Américain, donc, mais un horloger qui règle le jeu des puissances pour garantir la paix du monde. Un monde à la logique glaciale. Face au mal, la moralité ne sert à rien. Le mal existe, il faut être plus fort que lui. C'est le juif persécuté qui...
Je pense que c'est une des... Il faut pas aller trop loin plus dans la psychanalyse, hein, mais je pense que ça fait partie de l'explication. Il le dit d'ailleurs, lorsque vous avez vu votre monde s'effondrer autour de vous, et son monde c'était cette grande famille heureuse, juive et allemande,
orthodoxe,
ouais. Religieuse, vivant autour de la petite ville de Fürth, et lorsque vous avez ce monde qui s'effondre du jour au lendemain, vous êtes abandonné par tout le monde, eh bien vous pouvez avoir deux réactions. Et vous avez beaucoup de juifs allemands qui ont fui aux États-Unis, qui deviennent au contraire des libéraux au nom de la défense de la démocratie à tout prix. Eh bien, lui, non, devient un conservateur absolu en disant, et il cite Goethe, il dit « Je préfère l'injustice au désordre parce que le désordre est beaucoup plus douloureux pour les sociétés ».
Jean-Christophe Ploquin, la Croix.
Oui, alors c'est une question un petit peu sur la traîne, malgré tout, la trace que laisse Henry Kissinger, y compris aux États-Unis. Finalement, il y a eu aussi un autre secrétaire d'État extrêmement brillant, Zbigniew Brzezinski, qui a succédé quelques années après.
Lui, d'origine polonaise.
D'origine polonaise, qui a été très, très important, notamment dans la stratégie américaine en Afghanistan vis-à-vis de l'Union soviétique à l'époque, qui s'est beaucoup appuyé d'ailleurs sur ce qui deviendront l'Al-Qaïda et les talibans. Mais en tout cas, voilà, Brzezinski aussi était une personnalité formidablement intelligente. Et pourtant, lui, finalement, il est très peu connu. Et Kissinger reste finalement et continue à incarner finalement cette diplomatie américaine. Je pense qu'on serait... mis à part vous, Gérard Aron, mais nous, on serait incapable de se souvenir d'un secrétaire d'État de Clinton, par exemple. On se souvient un peu de Colin Powell, mais on sait pourquoi. Madeleine Albright, quand même. Mais Colin Powell, c'est l'incident à l'ONU. Bon, mais voilà, quand même, c'est Kissinger qui continue à incarner, en quelque sorte, cette diplomatie. Pourquoi?
Alors, j'ai connu Brzezinski, beaucoup d'allure, un grand seigneur très catholique. Et en effet, comme vous le rappelez, il porte la souffrance polonaise en lui, puisque son père était un diplomate polonais qui était, Dieu merci pour eux, en 39 au Canada. Donc ils sont restés sur le continent américain. Et lui veut abattre le communisme, et vous l'avez rappelé notamment en Afghanistan. Lui veut changer le système, alors que Kissinger, au contraire, veut le conserver, juge qu'il vaut mieux conserver ce qu'on a plutôt que de tenter d'abattre et d'aller vers l'incertitude. Alors pourquoi est-ce que on connaît Kissinger, qu'on connaît tous Kissinger? Et alors là, c'est
parce que c'était un mondain, non?
Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire il quitte le pouvoir en 77 et on l'aurait désespéré si on lui avait dit que jamais il ne le retrouverait, mais il va créer de lui-même, c'est sa volonté, il va créer une statue d'Henry Kissinger, il devient la statue du commandeur en relations internationales aux États-Unis et il va agir dans tous les domaines, notamment dans les médias, où il a un génie des médias, vous le voyez aux médias, malgré son accent, il a l'humour, il a les réflexions, la clarté d'expression qui séduit, il va conseiller les grandes entreprises, il va faire pas mal d'argent d'ailleurs, il va conseiller les grandes entreprises et il va écrire. Il va écrire et tous ses livres, qui sont pourtant des livres de relations internationales, je ne suis pas sûr que ceux qui l'ont acheté les ont tous lus, mais seront des succès et des succès considérables. Aujourd'hui, la plupart des auditeurs ne le savent pas. Henry Kissinger est encore vivant. Il a 98 ans et il zoom tous les jours dans toutes les conférences. On l'entend encore et on l'interroge. Et lorsque Emmanuel Macron est venu à Washington en visite d'État en avril 2018, il a demandé à rencontrer Henry Kissinger. Ils ont parlé de la Chine. Et à un moment, je voyais le jeune président penché sur la chaise roulante d'Henry Kissinger, et je me suis dit, mais attendez, la visite de Kissinger à Pékin, c'est 71, et notre président de la République est né en 77.
Voilà, c'est deux périodes qui s'affrontent.
Les racines du présent, RCF.
Les racines du présent, aujourd'hui, nous scrutons la diplomatie américaine et son évolution à travers la figure de Henry Kissinger, qui fait l'objet d'une biographie signée Gérard Arrault, qui fut notre ancien ambassadeur à Tel Aviv, à Washington et auprès des Nations Unies. Également, le titre du livre Henry Kissinger, le diplomate du siècle, c'est chez Talendier. Nous sommes également en compagnie dans ce studio de Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix et président de l'Association de la presse diplomatique. Alors, je voudrais que nous nous penchions maintenant sur un dossier extrêmement important que vous connaissez bien, Gérard Arrault, puisque vous avez été notre ambassadeur à Tel Aviv, c'est le dossier du Moyen-Orient. Nous allons nous transporter le 8 novembre 1973. Le journal télévisé de Antenne 2 à l'époque relate la rencontre entre Henry Kissinger et le président égyptien Anwar el Sadat.
Après le Caire, après Amman, Henry Kissinger est en ce moment à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite. Il y rencontre Faisal Darabi. Au communiqué assez alarmiste de Tel Aviv hier soir, répondent ce soir des propos plutôt encourageants du général Dayan, le ministre israélien de la Défense. D'une manière générale, durant les dernières heures, une certaine détente a semblé d'ailleurs dominer les contacts et les déclarations.
Je pense que nous progressons vers la paix, seule déclaration de l'Américain Kissinger. Je suis d'accord avec lui, a simplement répondu l'Égyptien Sadat. Rien d'officiel encore, mais officieusement, communiqué en tout cas par la radio israélienne, Kissinger aurait fait approuver par le président Sadat un plan en 5 points avant de le présenter à Amman, au roi Hussein de Jordanie, et ce soir en Arabie Saoudite. Échange des prisonniers le plus tôt possible. Mise en place d'un corridor pour approvisionner la 3e armée égyptienne toujours bloquée dans le Sinaï. Fin du blocus égyptien du détroit de Bab el-Mandeb. Négociation entre les deux parties, égyptiens et israéliens, pour tracer une ligne de cessez-le-feu. Et 5e point, quand les 4 premiers seront appliqués, ouverture de négociations de paix directes entre le Caire et Tel Aviv. Ce plan aurait été présenté au gouvernement israélien par Joseph Sisko, l'adjoint de Kissinger, qui a directement relié le Caire à Tel Aviv.
Voilà, nous sommes donc à l'issue de la guerre du Kippour, après cette guerre de 1967. Décrivez-nous, Gérard Arrault, le paysage diplomatique au Proche-Orient à l'époque.
Donc après la guerre des 6 jours, Israël occupait l'ensemble de la péninsule du Sinaï. Et donc les Égyptiens attaquent le jour du Kippour, donc le jour le plus sacré de l'année liturgique juive, pour prendre les Israéliens par surprise. Dans un premier temps d'ailleurs, l'armée égyptienne, il y a aussi les Syriens qui participent au conflit sur les hauteurs du Golan. L'armée égyptienne progresse, puis elle est arrêtée par les Israéliens qui ont subi de lourdes pertes, mais qui sont approvisionnés par les Américains. Et finalement...
Et par la France également, si je ne me trompe.
Non, pas du tout.
C'est une erreur de ma part.
Par une manœuvre très audacieuse de Sharon qui traverse le canal de Suez, il enferme la 3e armée égyptienne qui est dans le Sinaï, donc elle est enfermée et c'est le cessez-le-feu. Et c'est le début de ce qu'on appelle la diplomatie des navettes, c'est-à-dire que Kissinger, à trois reprises, va passer plusieurs semaines au Moyen-Orient en faisant des voyages entre les capitales, entre Jérusalem, le Caire, Jérusalem, Amman, Jérusalem, Damas, pour parvenir d'abord à un cessez-le-feu et ensuite, plus tard, essayer d'obtenir des retraits. Il obtiendra des retraits progressifs d'Israël des territoires qu'ils occupent. Alors les personnalités en face de Kissinger, c'est Sadat, hein, c'est deux divas qui se rencontrent, deux grandes divas, et dont Sadat il perdra la vie, hein, il sera assassiné en 81. Vous avez du côté des Israéliens, vous avez l'extraordinaire Golda Meir. Et là, c'est aussi intéressant du point de vue de personnalité, parce que Golda Meir, c'est la femme qui a tout donné pour le peuple juif, qui arrive de la Russie des pogroms, qui ensuite a participé à essayer de faire sauver les juifs d'Europe pendant l'Holocauste, et qui a signé la déclaration d'indépendance, qui dirige le pays, donc ce petit pays qui se sent assiégé, et qui en face d'elle, un autre juif, voilà. Et là, sa grande surprise, cet autre juif, le petit Heinz Kissinger, il est né Heinz Kissinger. Eh bien, le petit Heinz Kissinger essaiera de tordre le bras d'Israël presque comme s'il n'était pas juif. Et voilà. C'est le paradoxe fondamental. Alors, je signale pour les auditeurs qui ne doivent pas le savoir, mais que pour les juifs orthodoxes sont anti-sionistes. Les juifs orthodoxes considèrent que la création d'Israël est une abomination parce que pour eux, l'État d'Israël ne peut être que créé par Dieu sur la terre d'Israël, sous la loi d'Israël, avec le peuple d'Israël. Et donc l'État d'Israël ne satisfait pas cela parce que ce n'est pas la loi d'Israël. Il y a une loi laïque et il n'y a pas toute la terre d'Israël. Et donc beaucoup, d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, beaucoup de juifs orthodoxes ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Alors est-ce que c'est à l'origine de la pensée de Kissinger ? Je ne le sais pas, mais des étudiants disent que dès 47, au moment où on parle de la création d'Israël, le jeune étudiant à Harvard était déjà hostile à la création d'Israël au nom du réalisme par rapport aux pays arabes.
Jean-Christophe Ploquin, La Croix.
Une question, Gérard Rau, c'est savoir, finalement, il y a eu toute une séquence pendant laquelle les États-Unis ont été la puissance dominante, en quelque sorte, au Moyen-Orient. On se souvient que, donc, l'influence française et britannique de la Première Guerre mondiale jusqu'à 1956, hein, Suez, et ensuite les États-Unis et l'Union soviétique deviennent les principales puissances dans la région. Et puis, progressivement, les États-Unis vont, en quelque sorte, prendre la main. Est-ce que c'est justement l'époque Kissinger qui est le début de cette prise en main de la région pour les États-Unis.
Totalement. C'est Kissinger, la pensée de Kissinger, c'est justement d'expulser l'Union soviétique, de prouver aux pays de la région que les États-Unis sont le seul pays qui est capable d'assurer la stabilité et d'assurer aussi la paix avec l'État d'Israël. Souvent on dit ah oui, mais les Américains soutiennent l'État d'Israël, ils sont du côté d'Israël, mais ça veut dire aussi que c'est le seul pays qui a une influence sur l'État d'Israël. Et donc, pour les pays arabes, d'une certaine manière, s'ils veulent aller à Jérusalem, si j'ose dire, il faut d'abord passer par Washington. Washington devient, et c'est ça le génie de Kissinger, que Washington devient la porte d'entrée vers Israël, et Kissinger prouve qu'il peut obtenir des choses des Israéliens, qu'il peut tordre le bras des Israéliens.
En même temps, vous expliquez, Gérard Rau, dans votre livre, donc, consacré à la biographie d'Henri Kissinger, cette vision du Proche-Orient. Depuis 15 siècles, le Caire, Damas, Bagdad se disputaient la prééminence régionale. C'est un monde, écrivez-vous, le Proche-Orient, où l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et donc, avec ce rapprochement quand même assez paradoxal entre Israël et les pays du Golfe, comment comprendre tout cela, Gérard Rau ?
Oh, c'est très très simple, hein. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Vous savez, il y a ce que j'appellerais un narratif qui dit les pays arabes sont tous unis contre Israël et sont tous derrière le peuple palestinien. Ça n'a jamais été le cas. Lorsqu'on regarde tous les conflits, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et vous avez là derrière des rivalités entre les différents pays. Et vous avez aussi une tentative d'instrumentaliser les Palestiniens. Chacun a son bon Palestinien. Au fond, la plupart des pays arabes ne se préoccupent pas tellement du sort des Palestiniens. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ?
Alors,
bien, c'est simple, il y a un ennemi commun, c'est l'Iran. Les pays du Golfe sont terrorisés par l'Iran, parce que depuis que nos amis américains ont détruit l'Irak comme puissance, la grande puissance dans le coin, c'est l'Iran. et le jeu des puissances, et que ce soit le Shah ou que ce soit une république islamique, l'Iran pousse ses pions et les monarchies du Golfe en face se sentent faibles.
C'est la Perse face aux Arabes ?
Exactement, c'est la Perse face aux Arabes, ou c'est tout simplement l'Iran face aux pays de la région. Israël considère aussi, puisque la Syrie a disparu dans la guerre civile, puisque l'Irak a été d'une certaine manière détruit par les Américains, puisque l'Égypte sombre dans une crise intérieure interminable, eh bien, il n'y a plus qu'une grande puissance qui peut menacer Israël dans la région, c'est l'Iran. Et donc, les monarchies du Golfe et Israël, vous savez, en gros, les accords récents dont on parle, c'est la régularisation d'une liaison. Ils couchent ensemble depuis 20 ans, les pays du Golfe et les Israéliens. Voilà. Et donc, ils sont ensemble face à l'Iran. Et honnêtement, plus personne ne se préoccupe des Palestiniens.
Jean-Christophe Ploquin, La Croix.
Alors justement, si on revient à l'époque Kissinger, finalement, les Palestiniens existaient-ils au temps de Kissinger? Et quel regard Kissinger portait finalement sur cette population qui était effectivement dans ce qu'on appelle les territoires occupés, mais qui finalement avait encore une représentation extrêmement faible. Et on a tous en tête la figure de Yasser Arafat, mais à l'époque, à ma connaissance, il était un tout petit joueur. Enfin, il émergeait à peine. Donc, comment est-ce que les Palestiniens existaient aux yeux de Kissinger ?
Gérard Aron.
Je pense qu'aux yeux de Kissinger, les Palestiniens n'existaient pas ou existaient à peine. Mmh. Kissinger a une vision des relations internationales qui est une vision purement interétatique. Donc il fallait signer des traités de paix avec la Jordanie, etc. Et ensuite, le problème des Palestiniens sera résolu. Et je pense que sa solution a été de faire des Palestiniens des Jordaniens, qui soient sous l'autorité de la Jordanie. Mais l'OLP, à cette époque-là, n'est pas vraiment encore, ou alors est considéré comme un groupe terroriste, et d'ailleurs est extrêmement divisé, a été victime de ce qu'on appelle Septembre Noir. En 69, les Jordaniens l'ont expulsé, ils sont au Liban, ils ne sont pas encore des facteurs importants. Et ce qui sera nouveau, ce sera au moment du processus d'Oslo, dans les années 90, où les Américains se résoudront à considérer qu'il faut que la paix se fasse entre Israël et les Palestiniens.
Et ça, c'est parce que la diplomatie américaine a évolué, ou bien c'est parce que justement les Palestiniens, l'OLP, Arafat ont su s'imposer?
Les deux. D'abord parce que vous avez, en effet, vous avez par exemple en 85, vous avez le roi Hussein de Jordanie qui dit « moi la Cisjordanie c'est plus mon problème », qui se retire. Vous avez les pays arabes qui disent « il n'y a qu'un seul interlocuteur, c'est les Palestiniens ». Et vous avez en effet Arafat qui réussit peu à peu à s'imposer.
Les racines du présent. RCF.
À travers le destin du fabuleux Henry Kissinger, dont la biographie vient de paraître sous la signature de Gérard Haro aux éditions Talendier, eh bien, nous essayons de comprendre aujourd'hui, dans cette édition des Racines du Présent, les évolutions de la politique étrangère, de la politique internationale menée par les États-Unis. Je rappelle que Gérard Haro a été notre ambassadeur à Washington. Il a également représenté la France auprès des Nations Unies. Nous sommes en compagnie aussi de Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix et président de l'Association de la presse diplomatique. Alors, je voudrais vous amener, messieurs, autour d'un autre dossier très important aujourd'hui, c'est le dossier des relations entre les États-Unis et la Chine. On l'a vu ces derniers jours, le président Biden et le président Xi Jinping se sont parlé par vidéo interposée. La mer de Chine bruisse autour de Taïwan de bruits de guerre. Je voudrais revenir avec vous sur ce dossier chinois. À l'origine, en 1971-72, Henry Kissinger, Gérard Haro, a joué un rôle très très important dans le rapprochement entre les États-Unis et la Chine de Mao.
Ah, c'est quasiment un roman policier, vous le savez. À l'époque, en 71, tout le monde est persuadé que vous avez deux ennemis irréconciliables. La capitale du capitalisme d'un côté, de l'autre la capitale de la révolution prolétarienne. C'est la Chine de la révolution culturelle. Des centaines de milliers de Chinois, ils leur laisseront la vie. Vous avez des masses fanatisées aux yeux des Américains qui haïssent les États-Unis. Les deux pays ont été en guerre au moment de la guerre de Corée. Et des 15 000 Chinois aident les Vietnamiens à résister aux Américains. eh bien, il va y avoir une approche parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami et l'ennemi commun, c'est l'Union soviétique. Hein, ouais. Ne l'oublions pas. En 69, il y a plusieurs milliers de soldats chinois et de soldats soviétiques qui s'affrontent dans de véritables batailles de rangées. Et donc, l'ami Kissinger se rendra dans le plus grand secret à partir du Pakistan en 71, se rendra à Pékin, rencontrera longuement Chou En-lai.
Là aussi, ce sont deux divas qui se sont rencontrés.
Deux divas, Chou En-lai. Chou En-lai aussi, personnalité qui a été à la fois diplomate, soldat et révolutionnaire et qui a réussi à survivre au maoïsme et à la folie maoïste jusqu'à apparemment d'ailleurs en mourir puisque on dit que Mao a refusé qu'on soigne son cancer et qu'il en est mort. Et donc, il y a la rencontre de Kissinger et Chou En-lai. Et au fond, ce qui compte, c'est que les deux hommes comprennent qu'ils suivent la même logique, la logique froide, qui est de dire, bah oui, on a un ennemi commun, l'Union soviétique.
C'est toujours ce pragmatisme.
À total. Total. Mais Nixon, n'oublions pas que Nixon, c'est quand même lui qui donne l'autorisation et qui suit ça. Nixon partage cette vision du monde, cette vision froide et détachée de tout sentimentalisme. Et donc, lorsque on apprend à la télévision, lorsque Nixon dit, voilà, Henry Kissinger s'est rendu à Pékin et j'ai décidé de me rendre en Chine, on ne peut pas imaginer le coup de théâtre que cela représente aux yeux de tout le monde. C'est un monde qui s'effondre, c'est un nouveau monde qui apparaît. Et les Soviétiques qui étaient au courant des travaux d'approche américains, n'y peuvent plus rien. Et de manière assez pitoyable, et comme je le dis, je pense que Nixon et Kissinger l'ont apprécié, ils demandent une seule chose, ils disent à Nixon, venez à Moscou avant d'aller à Pékin.
Et en fait, non.
Les Américains iront à Pékin et iront ensuite à Moscou. Et d'un seul coup, ils sont le balancier entre les deux ennemis communistes. On voit bien que finalement, l'idéologie ne compte pas beaucoup en politique étrangère.
Voilà, finalement, c'est absolument fascinant. Jean-Christophe Ploquin-Lacroix.
D'abord, un tout petit commentaire. C'est vrai que ce changement de pied des États-Unis vis-à-vis de la Chine, c'est l'un des grands moments qu'on peut avoir en mémoire de rupture diplomatique. Et le monde, finalement, change parce que un ou deux hommes ou trois ont imaginé qu'il fallait que ce monde change précisément. Donc, c'est très fort. Et c'est une... Moi, j'aurais une question vis-à-vis de... En gros, De Gaulle a-t-il inspiré Nixon ? De Gaulle a-t-il inspiré Kissinger ?
De Gaulle, en 1966, qui a reconnu la République populaire de Chine.
Donc, évidemment, en quoi cette avancée de la France, ou ce choix de la France, s'est inscrit dans le paysage et finalement a pu aussi compter dans la décision de Kissinger-Nixon ?
Gérard Arrault.
Alors, il se trouve que j'ai rencontré très souvent Henry Kissinger, parce qu'Henry Kissinger est le style de vieux monsieur qui n'aime pas être seul. Donc, lorsque l'ambassadeur de France lui dit, tiens, si on prenait un petit déjeuner, il était toujours partant. Donc, je l'ai vraiment... Et d'ailleurs, il a écrit beaucoup d'articles là-dessus. Il était fasciné par Charles de Gaulle. À un moment où les États-Unis détestaient de Gaulle. Ils voyaient en de Gaulle un ennemi des États-Unis. Et il raconte la première visite de Nixon avec lui en 69 à Paris. Eh bien, le général de Gaulle dit aux Américains, mais pourquoi vous ne renouez pas avec la Chine ? Aux yeux du général de Gaulle, qui était lui aussi un pragmatique absolu, qui était un réaliste des relations internationales, il était évident qu'il y avait là une possibilité, une possibilité de rapprochement. Et donc, je ne sais pas si ce n'est pas, je dirais que c'est pas la France, c'est plutôt le général de Gaulle qui a certainement été
un précurseur
et qui a inspiré Kissinger. C'était amusant parce qu'au fil des entretiens que j'ai eu avec Henri Kissinger, on avait l'impression que la rencontre Nixon-De Gaulle devenait une rencontre Kissinger-De Gaulle. En reconnaissant un petit peu le général de Gaulle et vois mal parler avec le jeune conseiller qui était derrière le président Nixon.
Alors, venons-en à parler de l'Europe, des relations entre les États-Unis et l'Europe. Vous écrivez dans votre livre, Gérard Arrault, dans votre biographie de Kissinger, que à ses yeux, l'Europe comptait comme des supplétifs des États-Unis, c'est-à-dire.
Tout simplement, et je crois que d'une certaine manière, je vais être peut-être un peu dur et sans doute je caricature, mais ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui.
Ah oui.
Pour les États-Unis, alors, surtout en ce moment, peut-être en ce moment, pour les États-Unis aujourd'hui, il y a la politique étrangère se résume en trois mots: Chine, Chine et Chine.
Ah oui.
Et donc la puissance américaine est en train de se tourner face à la Chine, et les Américains, on le voit bien avec Joe Biden, avec ce qui s'est passé par exemple à Kaboul, où les Européens étaient quand même en Afghanistan, ils n'ont pas du tout été informés de la décision américaine.
Pas du tout.
Pas du tout.
Oui.
Alors l'affaire des sous-marins, nous pensons que c'est une affaire européenne, disons-le, c'est une affaire française, mais ça prouve bien qu'ils n'étaient pas très intéressés par les intérêts de la France. Aujourd'hui, les États-Unis ne considèrent pas l'Europe comme un partenaire à part entière. Vous savez, les États-Unis ont vis-à-vis de l'Europe, je dirais, une sorte de contradiction. D'un côté, ils disent, nous, on veut pas nous se charger de l'Europe, il faut que l'Europe prenne ses affaires en main. Mais en même temps, ils veulent continuer quand même à contrôler l'Europe, avoir une influence sur l'Europe. C'est pas une manière de critiquer les États-Unis. Toute grande puissance serait la même chose. Et donc, chaque fois que l'Europe essaye justement de se libérer, d'être capable d'agir par elle-même, alors aussitôt, le parrain américain dit non, il n'en est pas question. Et on le voit bien sur la défense européenne. Ça fait 30 ans que la France se bat. C'est un serpent de mer. Moi, j'ai passé une grande partie de ma carrière à défendre la défense européenne, mais nous avons toujours trouvé sur notre chemin les États-Unis.
Jean-Christophe Ploquin.
C'est une question, effectivement. Est-ce qu'on voit avec Joe Biden, finalement, le dernier président ayant un peu une affinité, un arrière-plan, finalement, européen, assumé, finalement. Il défend beaucoup ses racines irlandaises, à tel point qu'il s'immisce d'ailleurs dans les relations entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Et il s'est intéressé au Brexit uniquement par l'impact que ça pouvait avoir sur son pays d'origine. Mais voilà, est-ce que Biden est un petit peu, là aussi, la fin d'une époque dans cette relation entre les États-Unis et l'Europe?
Gérard Roux.
Je dois avouer, je me rappelle une anecdote. Au moment de la campagne électorale, j'ai vu mon collègue britannique effondré parce qu'à un moment, on voit Biden qui passe et il y a quelqu'un de la BBC qui lui dit « Monsieur Biden, voulez-vous parler à la BBC ?» Et Biden se retourne vers la BBC et lui répond « Non, je suis irlandais ». Mon collègue britannique était totalement effondré. Il y a, à l'évidence, chez les Américains, alors Biden, il a 79 ans, en effet, il est de la côte Est, donc il sait encore ce que c'est que l'Europe, mais il n'a pas de racines culturelles en Europe. Les élites américaines qui autrefois venaient de Harvard et parlaient toutes une langue européenne, on laisse le pouvoir, le pays pivote vers l'Asie. Moi, je me rappelle un interview de Obama au magazine The Atlantic, et à la fin de son mandat, de ses mandats, où il disait en gros l'avenir du monde se décidera entre New Delhi et Los Angeles. Et peut-être ont-ils raison d'ailleurs. Mmh. Et aux yeux des Américains qui aujourd'hui, la croissance, les potentialités de croissance, c'est là-bas, mais les menaces aussi, c'est là-bas. Et donc ils considèrent que la Russie est une puissance régionale. C'est ce que disait à la fureur des Russes que disait Obama. Romney, le candidat contre Obama, disait la Russie c'est une station service avec des armes nucléaires. Donc, en gros, ils disent la Russie, comme ils disent, it's a pain, c'est un problème, mais c'est pas une grande puissance, c'est plus la superpuissance. Notre vrai interlocuteur, c'est la Chine.
Mais alors, Gérard Haro, si vous étiez président de la Lituanie ou président de la Lettonie, est-ce que vous seriez pas un peu inquiet par les temps qui courent? Auriez-vous la conviction d'être possiblement protégé par le parapluie américain?
Alors, c'est un vrai problème pour les Européens, vous avez parfaitement raison. Sous Trump, la question était légitime et la réponse n'était pas évidente. Biden dit très clairement, et ça c'est la différence entre les deux présidents, parce qu'il n'a pas, vous savez, en politique étrangère, il n'a pas tellement, contrairement à ce qu'on peut penser de différence entre Obama, Trump et Biden, lui dit, nous mettrons en œuvre la garantie du traité de l'Atlantique Nord, donc nous viendrons protéger les États baltes, par exemple, contre des entreprises russes. Mais en 2024, alors c'est un autre sujet, mais en 2024, Trump peut très bien revenir au pouvoir. Qu'arrivera-t-il en Europe? Les Européens sont dans une situation de déni. Vous avez Emmanuel Macron, qui est un peu le rôle de Cassandre, et j'espère qu'il ne finira pas comme Cassandre, qui dit « Les États-Unis se retirent d'Europe, nous les Européens, nous devons assurer nous-mêmes notre propre sécurité », et les Européens ne veulent pas l'entendre.
Jean-Christophe
Oui,
Poquin,
bah, alors moi, ce serait comme Frédéric, vous avez évoqué les pays baltes, et il se trouve qu'il y a une actualité toute fraîche, c'est que donc l'un des pays baltes, alors je ne sais plus si c'est la Lettonie ou l'Estonie, mais vient de nouer des relations diplomatiques avec Taïwan. Et Taïwan vient d'ouvrir une ambassade, finalement, dans ce pays-là.
C'est ce qu'on appelle un casus belli, non ?
Bah alors justement, est-ce que là, on ne voit pas un peu l'héritage Kissinger, sinon vaciller, en tout cas une brèche, finalement ? Et est-ce que les États-Unis, quoi qu'ils en disent, continuent à dire, non mais on respecte le statu quo, mais voilà, qu'est-ce qui se passe autour de Taïwan aujourd'hui, où les États-Unis semblent vouloir vraiment affronter un petit peu la Chine sur ce sujet, au moins
Gérard
diplomatiquement.
Haro. Alors, Taïwan est un de ces sujets de relations internationales où je dis toujours, moins on en parle, mieux ça vaut.
Bien, nous allons en parler quand même.
Voilà, exactement, vous avez raison. Pourquoi ? En réalité, c'est la seule ligne rouge, absolument rouge des Chinois. C'est-à-dire que la Chine ne veut pas faire la guerre. À l'évidence, ce serait pour elle une catastrophe. Hein. Le pays a beaucoup de fragilités. Vous savez, on décrit souvent la Chine comme étant une sorte de monstre froid qui avance inexorablement. Non, les Chinois font des erreurs comme tout le monde. Hein. On l'a bien vu avec la révolution culturelle, le grand bond en avant. Et les Chinois ont de nombreuses fragilités, notamment démographiques, mais aussi sociales et économiques. Mais là, c'est une ligne rouge absolue, c'est-à-dire que ils n'accepteront pas l'indépendance de Taïwan. Et donc tout geste qui va dans la direction de la reconnaissance de l'indépendance de Taïwan est pour eux une agression. Mmh. Il faut le savoir. Mais en même temps, et ça a marché finalement depuis 1971, en même temps, le statu quo est maintenu. Taïwan reste dans les faits indépendant. Et donc, je pense que c'est ça le compromis, le statu quo à essayer de respecter. Alors, les Chinois observent ça à la loupe. Donc, par exemple, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, Joe Biden a invité le délégué de Taïwan à Washington à son inauguration. Ça n'avait jamais été fait. Un ministre américain s'est rendu à Taïwan sous Trump. Ça n'avait jamais eu lieu depuis des décennies. Les Chinois, immédiatement, qui sont paranoïaques sur ce sujet, réagissent de la même manière. Et vous savez, c'est un de mes collègues qui a été ambassadeur à Pékin me disait, mais il faut se rendre compte que pour eux, Taïwan, c'était comme si chez nous, Pétain s'était réfugié en Corse et que la Corse était toujours indépendante.
Voilà. Oui, voilà. Non, mais cette analogie est parlante. Oui,
et donc, pour eux, c'est totalement inacceptable. Mmh. Donc, c'est un problème très, très sensible. Je pense que la seule solution, c'est le statu quo institutionnel et politique, que les Chinois ne vont pas envahir Taïwan, mais il ne faut pas les titiller. Et je crois que c'est les Lituaniens qui ont reconnu Taïwan, et je dis vraiment, mais que vont faire les Lituaniens à Taïwan, franchement ? Je ne suis pas méprisant vis-à-vis de la Lituanie, mais honnêtement, ça ne sert à rien et ça ne fait que compliquer les choses.
Alors Gérard Haro, nous arrivons malheureusement au terme de notre conversation. Je voudrais vous faire réagir sur votre vision de la communauté internationale. En deux mots, vous écrivez, la communauté internationale, c'est la cour de récréation d'où le surveillant s'est absenté. C'est un peu panique à bord, Gérard Haro, non ?
Mais non, mais vous savez, le problème de la grande... Mon livre est aussi un petit peu... dans ce que j'essaye d'avoir un dialogue, je l'ai eu dans mes mémoires que j'ai publiées en 2019, un dialogue avec le citoyen sur la politique étrangère. Il y a une grande, je dirais, une incompréhension. Parce que, évidemment, le citoyen parle de morale et dit, voilà, la Chine, voilà, avec les Ouïghours, il faut punir la Chine. Mais la différence entre la morale interpersonnelle et la morale interétatique, c'est que la morale interpersonnelle, vous allez voir le juge et le gendarme, voilà, et ils agissent.
Et là, il n'y a pas de juge.
Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de gendarme.
Il n'y a pas de gendarme.
Donc, il faut parler au diable.
Donc, il faut se parler.
Il faut se parler, parler au diable.
Même avec le diable. Très bien. Un grand merci à vous, Gérard Haro. Je recommande évidemment la lecture de votre biographie de Henry Kissinger, le diplomate du siècle chez Talendier. Et vous l'avez mentionné, vous avez publié chez Grasset en 2019 vos mémoires qui sont véritablement passionnantes, intitulées 40 ans au Quai d'Orsay. Pour mieux comprendre le monde, je pense que ces deux lectures sont indispensables. Merci à Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix et président de l'Association de la presse diplomatique. Un grand merci également à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des livres de Gérard Haro sur le site de RCF. Et vous pouvez évidemment nous écouter en balado-diffusion ou en podcast, comme on dit à Washington. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.